Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre.
La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain.
Abra le corps.
Bonjour à tous. Au sein de ce cycle de déconstruction des représentations des maternités, on poursuit notre petite rétrospective historique. Dans les épisodes précédents, nous avons un peu débroussaillé comment la reproduction a pu être érigée en normes naturelles et la manière dont se sont construites les premières injonctions et représentations des maternités, à grand renfort de discours politiques et de littérature. Vous pouvez podcaster l'ensemble des épisodes d'Abra le corps sur le site de la radio La Clé des Ondes ou sur la plateforme PodCloud. Reprenons pour l'heure notre déménage socio et historique. Lorsqu'intervient la Révolution, les jours plus favorables semblent d'abord s'annoncer pour la condition féminine, perspective rapidement refermée. Dès 1793, les personnes assignées femmes, qui avaient pourtant fait partie intégrante des forces révolutionnaires, sont renvoyées à leur fourneau et la figure de la bonne mère est érigée en norme. L'arrivée de Napoléon n'améliore pas la donne. Comme souligné par Yvonne Knaibeiler dans « Histoire des mères et de la maternité en Occident », le Code civil fait des femmes des mineurs à vie et interdit la recherche en paternité sous l'extraordinaire prétexte entre guillemets, d'assurer la tranquillité des familles. Le Code pénal de 1810 fait réapparaître le crime d'infanticide qui avait disparu à la Révolution. À partir de 1835, toute mort d'un nourrisson, passé le délai de 3 jours, nécessaire à la déclaration d'état civil, est considérée comme un meurtre. Cette législation vaudra jusqu'à la nouvelle loi de 1994 qui différenciera l'infanticide du meurtre sur les mineurs d'entre 6 et 15 ans, considéré avec circonstances aggravantes si l'ascendant est direct, c'est-à-dire de la part des génitoristes. Pendant tout ce temps, la vision naturalisante de la figure maternelle perdure jusqu'au 19e siècle. Les écrits de Zola, par exemple, témoignent des préoccupations natalistes de l'époque et dessinent les contours d'un nouvel imaginaire, celui de la mauvaise mère, dépeinte comme un être dénaturé. À cette époque, la réalité sociale est pourtant plus complexe. En réponse aux besoins concrets de nombreuses mères, des administrations spécifiques se mettent en place pour organiser les services des nourrices. La précarité et la guerre sont également un terreau fertile pour l'émergence de nouveaux mouvements idéologiques qu'on qualifie de malthusiens, alertant sur l'impossibilité de prendre soin de toutes ces nouvelles bouches à nourrir. Le poids de l'injonction à la reproduction, bien sûr, pèse en premier lieu sur les assignées femmes, qui multiplient à leur échelle les stratégies de résistance. De nouvelles méthodes de contraception circulent, comme le diaphragme, le préservatif ou encore la méthode Ogino. Celle-ci consiste en une abstinence périodique des rapports sexuels non protégés pendant les jours dits fertiles, qui précèdent ou suivent l'ovulation. Outre les condamnations morales, ces méthodes impliquent néanmoins un certain nombre de charges sociales et financières. À partir de 1870, la natalité baisse. Pour beaucoup, faire moins d'enfants favorise l'ascension sociale et permet d'éviter de disséminer le patrimoine entre de trop nombreux enfants. À l'inverse, les ferventes défenseuses du natalisme ancrent leur argumentaire autour de la paix sociale, de l'intérêt national et de la préservation de la « entre guillemets race ». Cette invention sociale des catégories raciales étant un outil phare de légitimation politique depuis les débuts de la colonisation. Au sein de notre vieille Europe, et tout particulièrement en France, l'appel à la reproduction vise alors à consolider une prétendue homogénéité au sein de la population nationale face à l'immigration issue des colonies et au mythe du « entre guillemets grand remplacement » qui perdure encore aujourd'hui. Yvonne Knaibeiler montre que la fin du 19e siècle marque également un nouvel usage de la figure maternelle, notamment auprès des classes populaires. Sous prétexte de, je cite, « rendre la mère à ses petits », fin de citation, les décideurs politiques de l'époque encouragent les ouvrières à renoncer au travail à l'usine pour se cantonner à l'espace domestique. Plutôt que de s'épuiser pour des salaires qui sont 2 fois moins élevés, celles-ci sont fortement incitées à se focaliser sur les tâches domestiques, afin de mieux tenir ses foyers qui font si peur à l'élite de l'époque. des foyers de masse ouvrière qui jouxtent leur ville, où se répand l'alcool et l'anarchisme. La distinction des sphères privées publiques, c'est-à-dire d'une sphère réservée aux hommes, qui serait l'espace public, à côté de la sphère privée laissée aux femmes, et qui s'est toujours trouvée bien moins opérationnelle du côté des classes les plus pauvres, notamment depuis la révolution industrielle, devient de nouveau l'objet d'une propagande politique. De manière assez logique, ces nouveaux discours moralistes visent essentiellement les foyers les plus pauvres, les foyers bourgeois, étant de toute façon moins concernés par le travail des assignées femmes. Toutefois, loin de rester enfermés dans l'espace privé, l'assignation des fonctions de soins aux assignées femmes va connaître un mécanisme d'infusion inverse vers l'espace public, constituant notamment un enjeu de professionnalisation et donc d'ascension sociale pour les plus privilégiés. Dans Sorcières, sages-femmes et infirmières, Barbara Ehrenreich et Deirdre English décrivent un phénomène progressif de ce qu'elles appellent la, je cite, « domestication de la sphère publique », fin de citation, qui consiste à l'extension depuis la sphère privée vers la sphère publique, d'une partie du travail du soin, incarnée par la figure maternelle. Ainsi, en s'appuyant sur les nouvelles fondations philanthropiques, de nombreuses femmes bourgeoises prennent en charge une partie du soin de la société via de nouvelles professions, telles que celles d'inspectrices des écoles publiques ou d'infirmières. Déjà en charge de la reproduction humaine au sein des familles, c'est-à-dire dans la sphère privée, les personnes assignées femmes sont conduites à prendre également en charge la reproduction sociale de la sphère publique. On arrive alors au XXe siècle, siècle en Europe des premières victoires politiques et sociales pour les féministes. Au cours de ces mouvements de revendication, la question de la régulation des naissances se fait centrale. En France, où le taux de natalité est alors le plus bas d'Europe, elles sont notamment relayées par les mouvements anarcho-syndicalistes. N'idéalisons rien cependant, car le militantisme pour la contraception prend très vite la forme d'une croisade, aussi bien classiste que validiste et raciste. À la suite des premières revendications pour l'accès à la pilule, à base de progestérone, incarnée par l'activiste états-unienne blanche Margaret Sanger, dès les années 1910, le principal argument mis en avant devient celui d'une nécessité de réguler les naissances des personnes que l'on estime, entre guillemets, inadaptées. Barbara Ehrenreich et Deirdre English le montrent, cette fois dans leur essai « Fragile ou contagieuse, le pouvoir médical et le corps des femmes ». Margaret Sanger prenait déjà ce que l'on appelle l'eugénisme négatif, c'est-à-dire des pratiques de contrôle de naissance visant à éliminer les gènes jugés indésirables sous prétexte d'améliorer l'espèce humaine. Elle stigmatisait à ce titre les assignées femmes avec un QI inférieur. Or, l'American Control League and National Committee on Federal Legislation for Birth Control, qu'elle fonda et qui n'est autre que l'ancêtre du planning familial états-unien, se met pour sa part à ouvertement revendiquer un contrôle de la fécondité des immigrés dont l'assistance sociale coûterait trop cher au pays. Ça nous rappelle quelque chose. On retrouve une pratique eugéniste similaire en Angleterre par la diffusion d'un large panel de contraceptifs auprès des classes populaires. Et on ne peut bien sûr parler d'eugénisme négatif sans rappeler toutes les pratiques de contraception et stérilisation forcée sur de nombreuses populations dominées par le colonialisme, telles qu'à La Réunion.
Comment on explique qu'après la guerre, la France ait voulu contrôler le corps des femmes de cette façon-là dans les anciennes colonies, Françoise Vergès?
L'État français n'avait plus besoin de cette main-d'œuvre. Elle avait changé, je veux dire, il était en train de changer, l'État français changeait son économie. Tout ce qui était produit, la canne, la banane, n'avait plus autant d'importance. On avait besoin de moins de main-d'œuvre. Donc l'État français a inventé le fait qu'il y avait une surpopulation dans ces îles. Et donc c'est les femmes qui étaient responsables de la pauvreté et du sous-développement. Non pas la politique économique coloniale, mais les femmes. Et comme les femmes étaient responsables, le développement était impossible. Et donc, il n'y avait que deux solutions, l'immigration organisée et le contrôle des naissances. Et donc, vraiment, ça a été l'intervention de l'État français sur le corps de ces femmes racisées et pauvres, de manière extrêmement brutale. Ces blancs, ces médecins blancs, se permettaient de mutiler le corps des femmes à leur insu, comme vous l'avez souligné, c'est-à-dire qu'on leur mentait. On leur disait que c'était pour une petite opération, on les endormait, elles se réveillaient au matin, elles étaient avortées, stérilisées. Et en plus, les médecins se sont fait donc des fortunes, puisque se faisaient rembourser de ces actes par la Sécurité sociale, sans déclarer l'avortement, puisque c'était toujours un crime. Et donc, si vous voulez, moi, ce qui m'avait intéressé, c'est de voir comment l'État décide qui a le droit de donner naissance et qui n'a pas le droit de donner naissance. Ce sont les États-Unis qui ont été à la pointe dans les années 50 de dire aussi que les femmes du tiers-monde, de ce qu'on appelait le tiers-monde à l'époque, faisaient trop d'enfants. et qu'il fallait donc intervenir. Oui. Il y avait une surpopulation. Et il y a eu donc les femmes africaines-américaines, les femmes à Porto Rico, les femmes des minorités, les femmes amérindiennes, partout dans le monde ont été visées. Donc il y a, si vous voulez, deux politiques. Il y a une politique de patriarcat d'État et au niveau international, une politique raciale de qui a le droit de vivre.
Qui a le droit de faire des enfants, qui n'a pas le droit de faire des enfants.
Aujourd'hui, toujours bien que sous des manières plus soignées, les discours occidentaux à l'international ciblent les taux de naissance qu'ils jugent trop élevés chez les populations qui consomment pourtant 10 fois moins qu'elles et assurent leur main d'œuvre, mais auxquelles elles entendent bien donner des leçons de santé sexuelle et de démographie. Côté Europe, si l'importante participation des dites femmes au maintien de l'activité économique durant la Première Guerre mondiale vient renforcer les revendications féministes pour l'accès au marché du travail, l'entre-deux-guerres se charge bien de les remettre à leur place, recourant de nouveau à l'injonction à la maternité afin de repeupler les nations européennes décimées. En France, des primes de naissance sont mises en place et elles sont même doublées pour tous de celles qui auraient la bonne idée de mettre au monde des garçons. D'autres politiques natalistes vont dans le même sens, telles que les premiers congés maternité ou encore l'ouverture de centres d'hôtels maternels de plus en plus médicalisés afin de faire chuter la mortalité infantile. Les livres scolaires veillent bien à encenser le rôle essentiel et soi-disant naturel des mères. Et la première fête des mères est célébrée en 1926. Voilà pour les carottes. À côté de ça, l'État paternaliste n'oublie pas de brandir son bâton pour réprimer tout recours à l'avortement et à la contraception. L'idéal conservateur de la famille nucléaire et de la mère en charge de l'espace domestique se trouve bien sûr encore davantage renforcé sous les différents régimes fascistes des années 30 et 40. En France, il atteint son apogée sous le régime de Vichy, et ce pendant toute la période de l'occupation allemande. Le mouvement nataliste se structure alors en deux grandes branches qui vont tour à tour s'allier et s'opposer. D'après Paul-André Rosenthal, maître de conférence à l'EHESS et chercheur associé à l'Institut national d'études démographiques, travaillant sur l'histoire sociale et politique des populations, Vichy ouvre une période dorée pour les associations familiales qui existent en France depuis la fin du XIXe siècle. Essentiellement formées par des familles nombreuses, issues de la bourgeoisie industrielle et très liées à l'Église catholique, leur principal objectif est la préservation de leur structure familiale. Jusque-là, l'État républicain, de plus en plus anticlérical, ne leur donnait pas beaucoup voix au chapitre. Au sortir de la Grande Guerre, si elles avaient réussi à mettre en place des allocations familiales, celles-ci n'étaient pas prises en charge par l'État, mais reposaient sur des caisses de compensation, auxquelles une loi de 1932 viendra pousser les patrons à s'affilier. Peu à peu, elles organisent leur représentation auprès de l'Office national, rattaché au ministère de la Santé publique. Les membres de cet organisme sont alors élus par les pères de famille d'au moins 3 enfants. Pour ce groupe social conservateur que l'on appellera les natalistes et qui se trouve assez politiquement marginalisé pendant les années 30, l'arrivée de Vichy et de sa devise « Travail, famille, patrie » ainsi que le retour en force de l'influence de l'Église catholique vont constituer une véritable fenêtre d'opportunité pour la promotion de leur idéologie. On peut différencier les natalistes d'un autre groupe politique, celui des familialistes. Alors que les natalistes font de la reproduction un enjeu essentiel au renouvellement et au maintien de l'État-nation, les familialistes ne sont pas beaucoup plus intéressés que ça par les idéaux nationalistes en tant que tels. Ce qui leur importe à elles, c'est avant tout le maintien des structures familiales qui leur sont propres et que celles-ci restent dominantes, qu'elles ne se laissent pas submerger par le nombre et l'intérêt de classes sociales inférieures. La reproduction, comme idéal, oui, n'est pas pour toutes les classes sociales. L'important, c'est surtout la leur. La fin de la Seconde Guerre mondiale et la libération viennent alors faire un peu de ménage dans ces clivages. Si la Nouvelle République entend bien encourager le repeuplement du pays, les valeurs familiales sont désormais teintées négativement et abandonnées au milieu conservateur jusqu'aux années 80, au moins. Les associations familialistes perdurent néanmoins, se dotant de leurs propres organisations, telles que l'Union nationale des associations familiales, autrement dit l'UNAF. De son côté, la Nouvelle République affiche un objectif d'amélioration de la quantité et de la qualité de sa population. Elle crée en ce sens l'INED, l'Institut national d'études démographiques, et la Sécurité sociale, en 1945. Ressentant la réconciliation de l'ensemble de la population comme une urgence, les doubles incitations politiques à la maternité prennent alors moins la forme d'un discours de puissance nationale que celui d'une promotion d'une solidarité intergénérationnelle, notamment par la mise en place du système de retraite par répartition. À partir des années 70, le nouvel État-providence cherche à promouvoir tout un tas de politiques sociales dans une perspective très paternaliste. Il instaure notamment un programme d'accompagnement des projets des ménages, censé favoriser la conciliation entre les vies professionnelles et familiales. Des allocations sont mises en place, de nouvelles crèches sont créées. Les politiques se veulent plutôt neutres au type de famille, notamment en matière de logement. Elles prennent rarement en compte les dynamiques de genre, considérant le couple hétérosexuel comme une norme, comme une sorte de bloc uni qui ferait ses choix reproductifs à l'unanimité et dont les allocations sociales versées amélioreraient indifféremment la condition de chaque membre du couple. En parallèle pourtant, comme le souligne Yvonne Kneibeller, de plus en plus de méthodes de contraception et d'avortement circulent, accompagnant un désir croissant des personnes assignées femmes à sortir des rôles traditionnels imposés. Tout au long de la seconde partie du XXe siècle, la natalité française connaît alors de fortes variations. Des démographes vont développer différents modèles pour tenter d'en comprendre les ressorts. Gary Becker, économiste états-unien et parmi les fondateurs de l'économie de la famille dans les années 80, analyse les choix de famille en matière de reproduction au prisme de l'accès à la consommation. D'après lui, plus les revenus des ménages sont élevés, plus le nombre d'enfants serait limité. Les familles, haussant leurs attentes en termes de qualité de vie, de santé, d'éducation, de consommation qu'elles souhaitent donner à ceux ou ces derniers. Il leur apparaît alors préférable de privilégier la qualité de vie d'un nombre limité d'enfants plutôt que d'en faire beaucoup, tant pour pouvoir leur garantir à tous un confort minimal de consommation. D'après Becker, l'accès des mères au marché du travail et à des revenus supérieurs impacte de manière rationnelle cette réduction du nombre d'enfants, puisqu'elles ont de fait moins de temps pour gérer l'espace domestique. Le modèle de Becker est bien entendu largement insuffisant. Il ne prend notamment pas en compte les nombreuses différences sociales et culturelles, les modèles familiaux non normatifs, les divergences de positions possibles au sein des couples ou configurations familiales, ou encore l'évolution possible des préférences de chacun chacune tout au long de la vie. Un autre duo d'économistes états-unis, Robert Pollack et Michael Watcher, ont remarqué que l'enfant n'est pas forcément l'objet de coûts supplémentaires, mais peut même être un facteur de réduction des dépenses des ménages, celles-ci variant fortement d'un enfant à l'autre.
Putain, la voisine a mis un mot de passe à son réseau.
On n'a plus de Wi-Fi maintenant.
Ah, ça y est.
Rendons grâce au Wi-Fi qui éclaire nos vies.
Ça m'a vraiment fait plaisir de les voir, tes parents, en tout cas. Ils ont l'air en forme.
Oui, mais sans boulot.
Tu vois cette fille? Tu vas devenir son nouveau prof d'anglais.
Mais j'ai zéro diplôme. Je comprends pas pourquoi t'as loupé le concours d'entrée aux Beaux-Arts.
Oh, ferme-la.
S'il y avait un Oxford des faussaires, ta sœur serait major de promo.
Tu sais, papa, je vois pas ce diplôme comme une contrefaçon.
Il y a une opportunité à saisir.
Le film Parasite de Bong Joon-ho, sorti en 2019. L'économiste Richard Easterlin analyse pour sa part les variations des taux de natalité selon l'accès de chaque génération, qu'on dit cohorte, à l'accès au marché du travail et donc à un certain revenu, en partant du principe que nous comparons toujours un peu nos possibilités et adaptons nos attentes à ce qu'on perçoit de celles de la génération précédente. Easterlin fait donc une sorte de ratio entre les gains qu'on peut espérer, nous, par rapport aux revenus de nos parents. Son modèle se casse néanmoins un peu la gueule du fait de l'ouverture et la mondialisation de plus en plus grande et accélérée de nos économies. Une autre économiste, Dianje Makinovic, prend en compte les phénomènes d'importation, le mouvement des femmes des années 60 et leurs aspirations à des améliorations matérielles de leurs conditions de vie comme étant tout autant d'autres facteurs économiques suscitant des variations des taux de fécondité. Enfin, le duo de chercheuses universitaires Frédéric Pampel et Elisabeth Peters intègrent pour leur part les phénomènes d'immigration et l'impact politique macroéconomique d'après-guerre, tandis que de son côté, le démographe international Ronald Freeman souligne l'influence de la socialisation secondaire, c'est-à-dire des codes et des modèles transmis en dehors de la famille lors de nos constructions individuelles. Bref, on ne peut pas dire que ces chercheuses aient vraiment réussi à identifier un modèle clair de pourquoi certaines feraient plus ou moins d'enfants selon les époques. En tout cas, depuis le milieu du XXe siècle, après la fin du Second Conflit mondial, le simple idéal de renouvellement de la puissance nationale semble perdre un peu de cohérence et ne plus être le seul discours impactant les choix de reproduction. Surtout, les petites analyses coût-bénéfice de ces démographes qui parlent depuis leur position socialement dominante de chercheuses occidentales ne prend pas du tout en compte l'impact du système politique colonial et les différences culturelles et géographiques du rapport à la reproduction. Yale part du principe très néocolonialiste que toutes les politiques sociales et économiques sont vouées à terme à suivre les mêmes dynamiques calquées sur le modèle occidental. Lorsqu'Yale s'intéresse aux autres zones géographiques dominées par le colonialisme et le néocolonialisme, Yale leur applique une grille de lecture différente de celle qu'Yale applique aux pays occidentaux. Partant du principe que ces systèmes politiques ne sont pas encore, entre guillemets, assez développés, Yale les compare à des sociétés plus anciennes. Les facteurs pris en compte dans l'explication des choix de reproduction sont davantage des facteurs extérieurs qui auraient un impact direct et contraint sur les phénomènes reproductifs dans les populations ciblées. Ce modèle est appelé le modèle des déterminants proches. Il n'est pas le même que celui qui est appliqué aux pays occidentaux, dits développés, où l'on applique le modèle des choix. En gros, on considère que dans les sociétés dites développées, les gens choisissent davantage si elles souhaitent ou non des enfants, et combien, et seraient davantage en mesure de s'affranchir des facteurs externes. C'est le même imaginaire raciste que l'on retrouve dans les discours politiques de Sarkozy ou Macron, largement reliés par des organisations internationales comme le FMI ou le PNUD, quand ceux-ci pointent du doigt l'incapacité des « entre guillemets femmes africaines », puisqu'elles sont toujours mises dans le même panier, à contrôler les naissances. Ces démographes partent alors du principe que le modèle de natalité occidentale est voué à être diffusé au sein des autres sociétés, en même temps que les pratiques de consommation, de contraception, etc. Et ce, sans jamais bien sûr demander l'avis des concernés. Je soulignerai également un autre angle mort de ces études des démographes occidentalaux des années 80 et 2000. Sans avoir vraiment trouvé cela dans mes recherches, je pense qu'on pourrait également associer au développement de la société de consommation des années 60 l'émergence de nouvelles aspirations philosophiques en Occident qui transparaissent au travers des différents mouvements sociaux et notamment universitaires des années 60 et 70. J'avais déjà évoqué dans d'anciens podcasts la mise en place d'un certain idéal de soi et de l'appropriation de sa vie et de son corps. Dans les premiers épisodes autour du désir ou non d'enfant, j'avais également mis en avant les représentations assez existentialistes qui semblent aujourd'hui influencer nos choix en la matière, et ce bien davantage que des considérations d'ordre national. Les arguments majoritaires vis-à-vis du fait de faire ou non des enfants sont plutôt de l'ordre du sens à donner à sa vie en tant qu'individu, de la trace que l'on souhaite laisser et de ce que l'on voudrait transmettre avant même, souvent, toute considération d'ordre économique et encore moins d'ordre politique et national. Dommage qu'on ait toujours autant de mal, notamment en France, à croiser les disciplines telles l'économie et la philo. Toujours est-il que depuis les mouvements féministes des années 70, on observe, il est vrai, dans nos sociétés occidentales, davantage de remise en question de l'injonction à la reproduction. Toutefois, déconstruire l'idée de la maternité comme un passage obligé et naturel des personnes assignées femmes prend encore beaucoup de temps dans nos espaces et nos représentations dominantes, et la maternité reste la norme. Seulement 10% des personnes en mesure d'enfanter affirment aujourd'hui ne pas vouloir d'enfants. Comme l'illustrent les autoristes de l'ouvrage « Réflexion autour d'un tabou, l'infanticide », du slogan de la liberté sexuelle des années 70 « Un enfant si je veux, quand je veux », il nous est surtout resté la deuxième partie, c'est-à-dire un enfant quand je veux. En tant que personne assignée au genre féminin, nous sommes dès la prime enfance socialisés à nous projeter dans la maternité, par les jeux qu'on nous met entre les mains. Poupon, Barbie, Lando et Dinette pour toute la famille. Par les histoires qu'on nous raconte, ou en valorisant les attitudes d'écoute et d'émotion passive quand elles sont réfrénées chez les assignés garçons, davantage socialisés aux jeux d'action. La maternité reste également économiquement et politiquement encouragée par les primes de naissance, les congés parentaux que les personnes sexisées restent dans les faits bien plus incitées à prendre, et ce jusqu'aux moindres réductions tarifaires pour les familles nombreuses. Surtout, la figure sociale de la mère reste toujours largement valorisée dans la société et considérée comme source, entre guillemets, d'épanouissement individuel. Elle est d'ailleurs fortement associée à l'image de la femme et ce que serait justement l'accomplissement adéquat de la soi-disant, entre guillemets, de la soi-disant identité féminine. On se dépêtre pas de cette double fiction, comme quoi, 1, il existerait une identité féminine et 2, celle-ci serait intrinsèquement liée à la maternité. Elle nous poursuit jusque dans les discours psy encore très répandue, autour des mal-êtres et des pathologies psychiques, qui seraient directement liées à l'absence d'enfant, à une sensation qu'il manquerait quelque chose d'essentiel, et que ce manque ne pourrait nous apporter que déviance et souffrance. À l'inverse, la grossesse est une situation en soi, largement valorisée, tant qu'on a l'âge socialement jugé adapté. Tout de suite, ce sont des félicitations et l'extase sur les ventres ronds. On sursollicite les personnes enceintes sur leur projet de prénom, l'agrandissement du logement, etc., etc. Or, cette injonction et survalorisation de la maternité peut se révéler oppressive, non seulement pour les personnes qui ne souhaitent pas enfanter, mais aussi pour celles-là qui le souhaiteraient, mais se retrouvent dans l'incapacité physique, sociale ou autre, ou celles-là ayant vécu des grossesses particulièrement difficiles, des fausses couches ou la mort prématurée d'enfants. Faire de la maternité un allant de soi, qui serait aussi simple que forcément merveilleux, c'est renforcer les mécanismes qui poussent toutes les autres personnes qui n'en font pas l'expérience, ou l'expérience heureuse, à intérioriser une forme de responsabilité à ce sujet. Et qu'est-ce qu'on fait de la paternité dans tout ça? Le rôle et la responsabilité des assignés hommes?
Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi?
Déjà, on le sait, niveau responsabilité dans la contraception, c'est pas tip-top. Dans l'une des émissions des Couilles sur la table dédiées à ce sujet, l'invitée Cécile Ventola explique qu'au XIXe siècle, le contrôle de la conception était pourtant d'abord à la charge des assignés hommes au sein de la sphère privée. Cela est finalement assez logique si l'on se souvient du fait qu'ils sont historiquement attribués l'essentiel du rôle et du mérite dans le phénomène de reproduction, en désignant les corps utérinés comme des corps simplement passifs. La contraception regroupe alors surtout les méthodes de retrait ou d'abstinence périodique qui se transmettent de père en fils.
De nerfs protéines et tu seras viril, mon kid. Tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle.
Pousser la responsabilité trop loin non plus pour ces messieurs. Et s'il s'avère que la grossesse n'a pu être empêchée, la responsabilité de celle-ci est alors entièrement laissée aux personnes qui la vivent, avec implicitement la responsabilité de décider de l'interrompre ou non, avec toutes les implications morales, sociales, voire pénales, auxquelles cela expose selon les périodes. Aujourd'hui, les contraceptifs délivrés le sont avant tout aux assignées femmes et traduisent les préférences et les croyances du corps médical patriarcal. Préservatif vaginal, pilule de régulation de la progestérone, puis stérilé. Tout ça administré par des médecins en réalité très peu informés en la matière, puisque seulement 4 heures de formation sont dédiées à la contraception seulement. À côté de ça, ils sont très peu nombreux à connaître et informer les 6 mecs des contraceptifs. Cécile Ventola précise que seulement 2 médecins en France prescrivent l'injection. On ne parle même pas de la vasectomie, grand tabou médical, soi-disant peu rassurant de l'extérieur, et encore largement considéré comme une atteinte au corps. Oui, par les mêmes médecins qui passent leur vie à intervenir et modifier nos corps en permanence. Si une loi de 2001 a fourni un cadre légal aux interventions de stérilisation en France, la vasectomie et la ligature des trompes restent encore difficiles à obtenir, nécessitant notamment un délai d'au moins 4 mois de réflexion obligatoire. Bien que ce soit illégal, certains médecins continuent de conditionner ces interventions à la signature de décharge. D'autres contraceptifs, hors du cadre médical, existent, mais restent eux aussi très peu connus et médiatisés, comme les slips chauffants, le remonte-couille toulousain ou le vasalgel. Côté pilule, la recherche pour une pilule adaptée aux personnes productrices de spermatozoïdes n'a pas bénéficié du même apport financier que celle à base de progestérone. On parle de seulement 3% des ressources engagées dans l'ensemble de la recherche en matière de contraception. La recherche sur ce sujet se voit continuellement interrompue dès lors qu'émerge la moindre possibilité d'interférence avec la libido des personnes qui la prendraient. Si seulement il y avait eu autant de mesures de précaution autour de la pilule qu'on nous administre à nous et qui détracte bon nombre d'entre nous. Niveau libido, l'impact des pilules à base de progestérone sur celles des concernées ne commence à être pris en compte que depuis les années 2000. En même temps, la progestérone s'est révélée avoir tellement d'autres intérêts pour le patriarcat scientifique, comme de pouvoir contrôler la pilosité des assignées femmes, et de continuer ainsi à maintenir la fiction d'une binarité de genre. Ça, c'est pour le côté contraception. Côté accompagnement de la grossesse et de l'après-grossesse, on peut dire sans trop s'avancer qu'on n'observe pas de grandes avancées dans l'engagement des cis mecs à ce niveau-là non plus. En comparaison avec d'autres cultures basées ou non sur l'hétéronormativité, la entre guillemets « paternité » n'est pas socialement codifiée de manière précise. En tout cas, rien à voir avec tous les imaginaires qui pèsent sur la « maternité ». Au sein de nos sociétés patriarcales, si c'est bien la figure du père qui reste considérée comme modèle et première autorité référente, personne chez les dominants ne s'est trop foulé à donner un cahier des charges précis. Le flou étant toujours utile pour maintenir et adapter les privilèges, comme bon nous semble. De manière très stéréotypée, on trouve surtout une représentation dominante persistante du père comme devant être garant de la sécurité financière du foyer et incarnant l'autorité principale au sein de la famille. On note là néanmoins encore des différences de perception de l'autorité familiale chez les groupes socialement et politiquement minoritaires, selon les dynamiques classistes et racialistes. Je vous invite à ce titre à lire « La puissance des mères » de Fatima Wassak et les nombreux autres travaux ou écrits de son collectif, le collectif Front de Mère, qui met en avant la différence de vision et de perception des maternités, des classes populaires et notamment des 10 quartiers populaires à majorité de personnes racisées. On voit de manière générale que souvent, puisque les hommes des classes populaires ou racisés sont considérés tous les stéréotypes racistes comme davantage délinquants ou consommateurs d'alcool, etc., c'est souvent sur les mères que va reposer la responsabilité en fait de tenir leurs enfants ou de tenir les foyers. Et elles sont directement responsabilisées par l'ensemble des politiques publiques. Le même phénomène se retrouve aussi à l'international par les différentes politiques de développement ou humanitaire qui, depuis les années 70-80, viennent directement cibler la responsabilité des mères dans les foyers à qui on va accorder des microcrédits, etc. et qui ont fait énormément de dégâts dans l'ensemble des pays du Sud en reproduisant beaucoup de violences de genre, de violences économiques et en détruisant tout un tas de solidarité, de structures et de logiques locales. Bref, on le voit, les imaginaires que l'on a autour de la reproduction, des maternités et des parentalités sont le produit de mécanismes de pouvoir qui se sont développés sur le temps long. Et pourtant, ces fictions dominantes ne cessent de s'échapper contre la réalité de nos familles, éminemment plus complexes. Dans les prochains épisodes, nous intéresserons ainsi à toutes ces autres manières de désirer ou de concevoir la parentalité, des pratiques et des représentations extrêmement plurielles, toujours intrinsèquement liées à l'évolution des oppressions systémiques. Je vous laisse pour aujourd'hui et vous dis à la semaine prochaine dans Abra le corps.
Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre.
La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain.
Abra le corps.